Bonjour Sandra. Ce matin, j'aimerais vous proposer de poursuivre notre série dans l'évangile de Marc. Et on va lire à partir du chapitre 2, versets 1 à 12. Donc Marc, chapitre 2, versets 1 à 12. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaüm. On apprit qu'il était à la maison et un si grand nombre de personnes se rassemblèrent, de telle sorte qu'il n'y avait plus de place, pas même devant la porte. Il leur annonçait la parole. On vint lui amener un paralysé porté par quatre hommes. Comme ils ne pouvaient pas l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit au-dessus de l'endroit où il se tenait et descendirent par cette ouverture le brancard sur lequel le paralysé était couché. Voyant leur foi, Jésus dit au paralysé, « Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Il y avait là quelques spécialistes de la loi qui étaient assis et qui se disaient en eux-mêmes, « Pourquoi cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul ?» Jésus sut aussitôt dans son esprit qu'ils raisonnaient ainsi en eux-mêmes et il leur dit, « Pourquoi raisonnez-vous ainsi dans vos cœurs ? Qu'est-ce qui est le plus facile à dire aux paralysés ? Tes péchés sont pardonnés ? Ou lève-toi, prends ton brancard et marche ? Afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il aux paralysés, lève-toi, prends ton brancard et retourne chez toi. » Aussitôt il se leva, prit son brancard et sortit devant tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous très étonnés et célébraient la gloire de Dieu en disant « Nous n'avons jamais rien vu de pareil. » Ce texte que nous lisons ce matin s'inscrit dans notre série sur l'évangile de Marc que nous avons commencé il y a plus d'un mois et on a déjà vu dans le premier chapitre les éléments qui permettaient de caractériser l'identité du serviteur. Et puis, dans ce deuxième chapitre, on s'intéresse à ce que le serviteur a à nous offrir. Et en particulier, dans ces 12 premiers versets, sur le fait que ce serviteur a à nous offrir le pardon. La semaine passée, Philippe était intervenu sur la fin du chapitre 1, pour préciser que ce serviteur était compatissant. Et cette compassion est soulignée par le lieu où les événements se passent. On est en effet dans la ville de Capernaüm. Et ce nom de Capernaüm signifie compassion, maison de compassion. Donc Jésus est à Capernaüm parce qu'il veut exprimer sa compassion pour son peuple. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le passage que je veux partager avec vous ce matin a déjà été abordé par Christian il y a de cela 8 ans. Donc, je vais laisser la place à Christian pour redire ce qu'il avait à dire. C'est super parce qu'on a un site internet sur lequel les messages sont enregistrés. Il y a des archives qui commencent à remonter. Et donc, j'ai pu réécouter ce message de Christian du 25 janvier 2015. Alors, je me souvenais de tout par cœur, donc du coup, c'était une redite. Mais c'était un message qui m'avait, au-delà de la plaisanterie, c'est un message qui m'avait touché, qui m'avait parlé, et j'ai eu du plaisir à réécouter ce message. Et ce que je vous propose ce matin, c'est de ne pas redire la même chose. Comme ça, si vous le souhaitez, vous pouvez aller réécouter ce message de Christian, et vous verrez qu'il aborde les choses d'une manière différente. Christian avait beaucoup insisté sur justement cet aspect de la compassion, de la foi des quatre personnes qui transportent le malade devant Jésus pour qu'il puisse être guéri. Et il avait insisté sur cette idée que c'était une image de l'Église qui est là aussi pour pouvoir apporter ceux qui ont besoin d'être guéris devant Jésus. Et puis une Église aussi qui est appelée à être active et qui est appelée à la compassion de manière concrète. Alors, Moi, ce que j'aimerais vous proposer de regarder ce matin, c'est trois choses. Le Seigneur nous offre le pardon, car il est compatissant, car il en a le pouvoir, et car il est un modèle. Tout d'abord, parce qu'il est compatissant. Alors, est-ce qu'il y a une Martine dans la salle ? Il n'y a pas de Martine dans la salle, ok. Je veux aborder l'exemple d'une Martine, mais c'est fictif, donc je veux que personne se sente visé. Martine joue au loto depuis sa création, toutes les semaines. Donc elle a un certain âge. Elle est là pour tous les tirages. Elle ne se rend au point de vente que les mardis, jour où elle consulte les résultats et effectue les mises pour toute la semaine, laissant la machine décider des numéros pour elle. Elle a un budget de 7 euros par semaine, qu'elle ne dépasse jamais. Et lorsqu'elle gagne, c'est toujours de petites sommes. Et elle ne les rejoue pas, elle s'offre un petit plaisir, un restaurant, un vêtement. Elle n'aime pas les autres jeux parce qu'elle les trouve trop risqués. Et puis, ça heurte son sens des usages de l'argent qu'il faut gérer avec prudence et dépenser avec parcimonie. Son objectif essentiel, c'est cependant de gagner le jackpot pour pouvoir cesser de travailler. Elle pense régulièrement à ce qu'elle ferait si elle gagnait les 100 millions d'euros de la grosse cagnotte, les personnes dont elle pourrait se venger en ne leur donnant rien, les plaisirs qu'elle pourrait s'offrir et les projets qu'elle pourrait concrétiser. Elle ne se sent pas défavorisée économiquement, son travail est tout à fait convenable, mais elle sait qu'il ne lui permettra jamais de devenir riche et de changer de vie. Son rêve ultime, c'est de monter une chambre d'hôte à Cuba avec son mari. En attendant, elle joue à chaque tirage, lucide sur ses faibles chances et son impuissance à influer sur les résultats, mais en se disant tout de même que le bonheur n'est pas que pour les autres et qu'elle n'a pas moins de chances de gagner qu'eux. Lorsqu'on parle du loto et des jeux d'argent, on aborde très vite les personnes qui ont gagné et puis qui derrière ont eu souvent des problèmes. Mais en réalité, ces personnes-là qui ont gagné sont hyper rares. Alors ça dépend les types de jeux, mais pour le loto, c'est 0,004% des joueurs qui gagnent. On parle aussi parfois des personnes qui sont addictes au jeu, qui finissent par devoir être interdits de jeu, tellement c'est un problème pour eux. Mais on parle moins de la grande majorité des joueurs, comme ici cette Martine, qui fait partie de cette catégorie de personnes qui contrôlent la situation. Elle prend peu de risques et elle a cadré les choses pour que ça se passe bien. Cependant, même dans le cas de Martine, elle a une conception du jeu en lui-même qui est erronée. Parce qu'elle a l'espoir de gagner déjà le jackpot, ce qui est peu probable, plus que peu probable. Et surtout, elle a cette idée que par le jeu, elle va pouvoir combler une frustration chez elle, qui est de pouvoir être suffisamment riche pour pouvoir vivre une autre vie que celle qu'elle est en train de vivre. En fait, elle s'appuie sur cette habitude de jouer comme un espoir de voir sa vie changer. Et cette volonté de combler sa frustration, cet espoir du changement, peut parfois, chez certains, les pousser à prendre des risques délibérés avec l'argent et se transformer en addiction. Ce que je veux dire par là, c'est que parfois, comme on le voit avec les jeux d'argent, on aimerait bien avoir un petit coup de pouce du destin pour voir nos rêves se réaliser. Mais la réalité, c'est que c'est peu probable, voire impossible, que cela se passe. Et puis l'autre réalité, c'est que le jour où ça nous arrive vraiment, est-ce que c'est vraiment un cadeau que de gagner du jour au lendemain 100 millions d'euros ? Je pense que je ne suis pas le seul à avoir imaginé ce que je ferais avec 100 millions d'euros. Et en fait, mon cerveau chauffe très vite parce que il y a plein de paramètres à prendre en compte qui sont quand même assez compliqués. à commencer par le montant sur ces 100 millions d'euros qu'il faut tout de suite rendre à l'État parce qu'il y a des taxes, et puis, etc., etc. Ce que je veux dire par cet exemple, c'est que dans ce texte, on est tout de suite touché par ce paralysé que Jésus guérit et qui repart avec son brancard sur le bras. C'est extraordinaire. Cet homme qui était dans une situation où sa seule position s'était allongée sans pouvoir bouger, repart debout avec son brancard sous le bras, avec sa civière sous le bras. Et ça, c'est extraordinaire. Or, ce n'est pas le point principal de ce passage. Ce que Jésus veut nous montrer ici, c'est que ce paralysé qui est venu qui est apporté par ses amis pour la santé de son corps, reçoit en fait quelque chose de beaucoup plus important que cela. Pourquoi ? Parce que de manière surprenante, lorsque le paralysé est déposé devant Jésus, Jésus ne lui dit pas « Ben, je vois ta foi, lève-toi et marche. » Non, qu'est-ce que Jésus lui dit ? Voyant leur foi, Jésus dit au paralysé « Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Pourquoi Jésus dit à ce paralysé « Tes péchés te sont pardonnés. » Alors même qu'on comprend bien qu'il est venu pour être guéri. Parce que Jésus sait quel est le besoin de ce paralysé. Jésus sait que la chose la plus importante pour se paralyser, c'est pas de pouvoir remarcher, c'est pas d'avoir la guérison physique, mais c'est d'avoir la guérison de son cœur. Jésus sait que ce paralysé a un problème avec Dieu, que sa relation avec Dieu est coupée et qu'il n'est pas réconcilié avec Dieu, qu'il n'est pas en paix avec Dieu et qu'il a besoin d'être pardonné pour pouvoir avoir une nouvelle relation avec Dieu. Le paralysé est venu pour la santé du corps et Jésus lui donne la santé du cœur. Jésus lui donne plus que la guérison sur la terre, mais il lui donne une guérison pour le ciel. Pourquoi Jésus fait cela ? Ben, Jésus fait cela aussi parce que, en fait, il en a le pouvoir. Jésus démontre que s'il peut guérir, il peut pardonner les péchés et s'il peut guérir aussi ce malade, c'est parce qu'il en a l'autorité. Il y a un paradoxe quand même assez incroyable dans ce texte. Lorsque Jésus dit au paralysé « Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés », le paralysé n'a rien demandé. La semaine passée, Philippe a insisté sur le fait que dans Matthieu 7,7, Jésus dit « Demandez et vous recevrez, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira ». Et dans toutes les Écritures, on voit que si on veut obtenir le pardon, il faut venir frapper à la porte et dire « Seigneur, je te demande pardon pour mes péchés et j'ai besoin que tu me pardonnes ». Dans Hébreux 11, verset 6, on voit ce verset qui dit « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent ». Et donc, on voit dans les Écritures que Jésus pardonne et Dieu pardonne ceux qui viennent à lui en lui demandant pardon. Ici, c'est pas le cas. Est-ce que ça remet en question tout ce qu'on voit par ailleurs dans les Écritures ? Absolument pas. Ce que cette phrase de Jésus, « Tes péchés te sont pardonnés » montre, c'est que Jésus sait ce qu'il y a dans le cœur de cet homme paralysé. Il n'a pas besoin que cet homme parle pour savoir quel est son besoin le plus profond et le plus important dans sa vie. Vous avez peut-être vu ce film qui est sorti dernièrement, Les Trois Mousquetaires d'Artagnan, de Martin Bourboulon. Dans cette histoire, il y a un des mousquetaires qui s'appelle Athos et qui est accusé d'avoir commis un crime. Il est condamné à mort. Et puis un peu plus loin dans le film, voilà que le roi est victime d'un attentat. Athos, qui est présent à côté du roi, se jette sur le roi et le protège de l'attentat. Et pour le remercier de lui avoir sauvé la vie, le roi Louis XIII lui accorde sa grâce royale. Alors c'est quoi la grâce royale au Moyen-Âge? C'est l'idée de dire que c'est l'idée que le roi peut changer une décision de justice et Athos, qui était condamné à mort, voit cette décision annulée par le roi et il peut repartir vivant. C'était une action qui était utilisée souvent par les rois, parce que c'était un moyen pour les rois de rappeler à la population que le roi n'est pas celui qui punit, mais qu'il est celui qui sauve. La justice punit, et le roi lui-même était soumis à la justice. Mais c'est le roi qui est au-dessus de la justice et qui peut sauver quelqu'un de la condamnation. Cette réalité, on la retrouve dans cette citation de C.S. Lewis dans son autobiographie, dans laquelle il dit « La dureté de Dieu est plus douce que la douceur des hommes, et sa contrainte est notre libération. » Si Jésus peut donner le pouvoir à ce paralytique, mais c'est tout simplement parce qu'il en a le pouvoir, parce qu'il est celui qui peut pardonner et qui peut offrir une grâce royale s'il le désire. Et le paralytique n'a pas besoin de parler, Jésus sait ce qu'il a dans son cœur et Jésus sait ce dont ce paralytique a besoin. Jésus est l'auteur du salut, Jésus est l'auteur de notre foi et toute notre réconciliation avec Dieu dépend de lui et de lui seul. Si je viens vers Jésus pour lui demander pardon, ça doit être le fruit d'un raisonnement et d'une réalité sincère dans mon cœur. Ce n'est pas juste une parole magique que je dis « Seigneur, pardonne-moi et je suis pardonné ». Jésus veut voir que ça vient de mon besoin profond et de ma nécessité de vouloir être réconcilié avec lui. Ce qui est assez frappant, c'est que Jésus insiste sur cette réalité qu'il voit dans les cœurs au verset 8. Puisqu'au verset 8, on lit que Jésus sut aussitôt dans son esprit que ceux qui l'écoutaient raisonnaient en eux-mêmes. Cette phrase insiste sur le fait que non seulement Jésus voit ce qui se passe dans la tête du paralysé, mais il sait aussi ce qui se passe dans ceux qui l'écoutent. Et c'est ce que j'aimerais développer dans ce troisième point, c'est que le serviteur vous offre le pardon car il est un modèle qui ne laisse pas indifférent. Vous savez, dans ce film de 2013, Le Majordome de Lee Daniels, il s'agit de l'histoire d'un domestique à la Maison Blanche qui s'appelle Cecil Gain dans le film, qui a été domestique pendant 34 ans à la Maison Blanche aux États-Unis sous 8 présidents différents. C'est un film qui n'aurait jamais dû voir le jour parce que celui qui a écrit le scénario s'est inspiré d'un article de journal qui a été publié en 2008, c'est un article de journal qui fait une demi-page de journal. Et en fait, le journaliste raconte simplement, en une demi-page, la biographie du vrai personnage qui a existé et qui a inspiré le film. Ce personnage est décédé en 2010, donc lorsque le film sort en 2013, il n'existe déjà plus. Et à partir de cette demi-page de journal, il y a un film qui est sorti et on connaît l'histoire de la vie de ce domestique pendant 34 ans. Et c'est la réalité d'un serviteur. Un serviteur, on ne fait pas des films sur les serviteurs. Le but d'un serviteur, c'est de servir, de faire son travail, et puis ensuite il disparaît. Et qu'est-ce qu'on garde dans les chronologies royales? On garde l'histoire du roi, de la reine, des principales personnes qui étaient les élites du pouvoir, mais les serviteurs. On ne s'y intéresse pas. Or, ce que Marc nous montre ici, c'est que Jésus est un serviteur qui ne passe pas incognito. C'est un serviteur qui suscite des réactions, et qui suscite des réactions contrastées, d'amour et de haine. Réaction d'amour, chapitre 1, verset 22, On était frappés par son enseignement, car il enseignait avec autorité, non pas comme les spécialistes de la loi. Chapitre 2, verset 12. Aussitôt, il se leva, prit son brancard, sortit devant tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous étonnés, et célébrait la gloire de Dieu en disant « Nous n'avons jamais rien vu de pareil. » D'un côté, des personnes qui sont émerveillées par ce que Jésus fait et par ce que Jésus dit. Et puis de l'autre, des personnes qui sont choquées par ce qu'il dit. Parce que ils trouvent que, ils disent « Pourquoi cet homme parle-t-il ainsi ?» Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Qui sont les personnes qui réagissent comme ça? Alors, pour avoir cette précision, il faut aller dans le passage similaire qu'on trouve dans Luc, chapitre 5, verset 17. Un jour, Jésus enseignait des pharisiens et des professeurs de la loi, venus de tous les villages de la Galilée, de la Judée et de Jérusalem, étaient assis là. En fait, la scène qui est décrite là, c'est la scène dont Jean-Lionel nous a parlé plus tôt. C'était en fait un week-end de théologie biblique de l'IBG. Et il y avait là tous les responsables des églises lyonnaises qui étaient là pour écouter ce que Jésus avait à dire et pour avancer dans leur connaissance des Écritures. On peut imaginer que ces personnes-là étaient là assoiffées de ce que Jésus allait dire, et de ce que Jésus avait dit, et conscients qu'il avait des choses à leur apprendre. Mais Jésus ne se contente pas de les enseigner, il va les provoquer. Pourquoi il les provoque? Parce qu'il affirme qu'il peut pardonner les péchés de cet homme. Or, il s'agit là d'un attribut divin. Et pour eux, c'est insoutenable que Jésus se confère cet attribut de pouvoir pardonner les péchés. Alors, qu'est-ce que Jésus fait pour les convaincre? Il s'attribue un deuxième attribut, qui est l'attribut de guérison, qui est aussi un attribut divin. Et si jamais ça ne suffit pas, il va plus loin dans son test, puisqu'il va justifier sa capacité à pardonner les péchés, à guérir, en s'attribuant un titre, qui est le titre de « Fils de l'homme ». Or, ce terme de fils de l'homme montre que Jésus ne s'attribue pas seulement la qualité de prophète ou la qualité une qualité qui permettait de pardonner les péchés, mais il s'accorde au-delà de cela la qualité de fils de l'homme, qui est en référence avec l'idée de sauveur, de Messie. On retrouve cette expression dans Daniel chapitre 7. Et c'est une expression qui est en lien avec un fils de l'homme qui doit venir comme le juge suprême, le juge ultime à la fin des temps. Jésus se place dans cette position d'autorité de celui qui est le juge ultime. Alors, est-ce qu'il peut pardonner les péchés? Mais oui, parce qu'il a cette autorité. Mais il rappelle aussi à travers ce texte qu'il est celui devant lequel tout homme devra comparaître un jour et pour lequel Jésus sera là en tant que juge pour pardonner les péchés ou pour ne pas pardonner les péchés. Qu'est-ce que Jésus est en train de faire avec ce test envers les personnes qui l'écoutent? Eh bien, en fait, il est en train de démontrer qu'il n'y a pas un paralytique devant lui, mais qu'il y a une assemblée de paralytiques. Jésus veut montrer que le plus paralysé parmi les personnes qui sont devant lui, ce n'est pas seulement celui qui est sur une civière à ses pieds, mais c'est l'ensemble de ceux qui l'écoutent et qui sont des paralysés spirituels. Jésus veut montrer que ces paralysés spirituels sont devenus en fait imperméables au message de salut, de grâce et de joie qu'annoncent les Écritures. Il se présente devant eux comme le Sauveur, comme le Messie, comme justement ce Fils de l'homme que le peuple d'Israël attendait, mais eux ne sont pas capables et ne parviennent pas dans les yeux aveuglés pour comprendre qu'il est cette personne. Et ils réagissent de manière choquée. Or, lorsqu'on voit un peu plus loin, dans chapitre Au verset 17, Jésus affirme que ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs à changer d'attitude. Qu'est-ce que cela nous dit sur notre situation personnelle aujourd'hui? Que c'est une excellente chose que de pouvoir aller à des week-ends de théologie biblique, mais plus simplement de pouvoir venir ici le dimanche matin et de pouvoir écouter la parole et de pouvoir être instruit et encouragé dans notre foi. Cependant, nous avons besoin d'un miracle. Nous avons besoin que notre cœur soit ouvert à ce que Jésus a à nous dire. Et nous avons besoin que Jésus nous libère de notre paralysie spirituelle pour pouvoir comprendre à quel point Jésus est celui qui peut nous proposer de marcher en nouveauté de vie. Et qui peut faire cela, si ce n'est Christ lui-même, par son esprit, qui peut nous convaincre de péché, de justice et de jugement. Alors, pour terminer, j'aimerais insister sur la source de cette autorité, de cette compassion et de ce modèle qu'est Jésus-Christ. Pourquoi Jésus peut pardonner ce paralysé qui est amené devant lui par ses quatre amis? Eh bien, parce que lui-même a accepté de devenir paralysé par ses ennemis. Et à quel moment Jésus a été paralysé par ses ennemis? Eh bien, à la croix, lorsqu'on lui a planté quatre clous dans les mains et dans les pieds, et qu'il ne pouvait plus bouger. Pourquoi Jésus peut pardonner ce paralysé qui est amené par ses quatre amis? Et parce que lui-même s'est retrouvé à la croix, loin de toute compassion, à tel point qu'il n'avait même plus son ami suprême, son Père, qui l'a abandonné. C'est pour cela que Jésus dit « Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et cette réalité de ce que Christ a vécu à la croix nous pousse à réagir. Et cela ne peut pas nous laisser indifférents. Et quelle serait la différence, quelle serait la réaction? Eh bien, c'est de se tourner vers Jésus et de lui dire ce que je pense de lui, de lui dire que j'ai besoin d'un ami comme lui qui sait ce dont j'ai besoin, mais qui sait ce dont j'ai besoin au-delà même de ce que moi je sais de ce dont j'ai besoin. Parce que Jésus connaît mes besoins mieux que je ne les connais moi-même. Et cette prière, Jésus peut l'entendre de manière sûre et certaine parce qu'il voit notre cœur et il sait comment répondre à nos besoins le plus important, qui est celui que nos péchés soient pardonnés et que nous soyons réconciliés avec Dieu. Je vous invite à prendre une minute en silence, et puis je prierai.